Je suis heureux de vous retrouver ce matin. On est très nombreux, on a dû refuser des personnes et je vous remercie pour votre ponctualité. Malheureusement, on a dû refuser des personnes et je vous rappelle que si jamais vous le pouvez, on vous invite à choisir le culte de 14h. Le culte de 9h30 étant également plein. Je suis conscient de la responsabilité de devoir diriger une église dans laquelle les personnes ont faim et soif de la parole de Dieu. Et je vous prie d'avoir simplement ce désir ce matin de vouloir recevoir quelque chose de Dieu. Et c'est dans le livre de Ruth que l'on va chercher notre pain quotidien. Dans le livre de Ruth au chapitre 1, 2, 3 et 4, puisque c'est l'histoire de cette femme extraordinaire que nous allons étudier ce matin. Dieu a prévu des bonnes choses pour votre vie, même si ça ne se voit pas. Je répète, Dieu a prévu des bonnes choses pour votre vie, même si vous ne le voyez pas actuellement. Et pour cela, il vous faut simplement une chose, c'est choisir de vivre. Parce que ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous empêcher de voir les belles choses que Dieu a prévues pour vous, c'est si vous-même, vous finissez par limiter. Et que vous restez sur les choses qui sont difficiles à vivre et que vous ne passez pas à simplement cette vie suivante, cette nouvelle saison que Dieu a prévue pour vous. Parce qu'il y a des saisons dans votre vie et c'est ce qui va se passer dans la vie de Ruth. On va lire ensemble dans le livre de Ruth au chapitre 1er. J'admire cette femme qui va trouver la force de vivre. Je ne sais pas si certains ont vécu des moments difficiles dans votre vie où vous aviez tout près de lâcher, mais il y a la caractéristique que Ruth va m'apprendre ce matin quand je suis dans une période difficile de ma vie. C'est que chaque petit grain de vie que Dieu a prévu autour de moi, il faut que je le ramasse. Vous voyez, vous connaissez un petit peu l'histoire. Ruth, c'est toute une histoire de petits grains. C'est-à-dire que cette femme sur qui le sort s'acharne va ramasser chaque petit grain d'orge dans les pires circonstances. Et Dieu va le permettre que son pain soit magnifique à la fin de l'histoire. Sauf que vous allez avoir la fin de l'histoire, mais elle ne l'avait pas au début. On l'ouvre ensemble. Donc, Ruth, chapitre 1er, verset 15. Noémie, des fois c'est Noémie, des fois c'est Naomi selon les versions. Donc, dans ma version ce matin, c'est Noémie. Noémie lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort te sépare de moi. Devant une telle résolution, à la suivre, Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem, qui est la maison du pain. Et après, c'est une histoire de ramasser chaque grain que Dieu va mettre sur sa route. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, nourris-nous ce matin parce que, Seigneur, cette parole, elle est une parole de vie et je voudrais que ça soit toi-même qui puisse apporter cela. Seigneur, il y a ici des personnes qui ont faim de recevoir de toi un conseil, une direction, un encouragement. Je voudrais simplement être cette personne qui livre ce pain qui vient du ciel. Seigneur, donne-moi un pain qui vient du ciel pour eux ce matin. Que ton onction vraiment permette qu'il soit accepté au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je suis impatient de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Peut-être plus toi, mais est-ce que tu es prêt à glaner chaque petit grain de vie que Dieu a préparé pour toi? Est-ce que tu es prête, si tu es une jeune fille ce matin, à glaner chaque petit grain de vie que Dieu a prévu pour toi? Dans ta vie sentimentale, dans ta vie sociale, dans ta vie spirituelle, Dieu va du ciel permettre qu'il y ait des petits grains. Tu les reconnaîtras peut-être pas comme venant de lui, mais je peux te dire une chose, ces petits grains viennent de Dieu et il suffit de les ramasser. La vraie vie de Ruth, c'est le premier point, on va voir deux choses ce matin. On va voir sa vraie vie, celle que tu voudrais pas vivre, celle qu'elle voudrait pas vivre. L'authentique vie de Ruth, c'est une vie catastrophique. Le domaine sentimental, c'est la catastrophe. J'ai trop de retours et j'ai le son qui change et c'est moins bien. Le domaine sentimental, c'est la catastrophe. Le domaine social, c'est la catastrophe. Le domaine spirituel, c'est rachitique. Bilan, elle a pas grand-chose. Et pourtant, cette femme va m'apprendre qu'il est possible de tenir et d'avoir la force de vivre. Parce que dans sa vie sentimentale, au verset 1er du chapitre 1, on va même lire un petit peu plus loin. Vous savez que c'est Élimélec qui est parti avec ses deux fils et donc sa femme Noémie. Ils sont partis dans le pays de Moab. Et là, le malheur les frappe. Parce qu'au verset 3, il est dit « Élimélec, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des Moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour, les deux fils de Noémie. » Pauvre maman Noémie. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Oui, mais je dis pauvre Noémie, mais pauvre Ruth aussi. Parce que si on calcule un petit peu et qu'on réfléchit, elle est restée 10 ans. 10 ans, Noémie est restée 10 ans dans le pays de Moab. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 10 ans. Certainement, au début, il y a eu un temps d'adaptation. Mais avant de se marier avec Malon, puisque c'est Malon que Ruth a épousé, je ne sais pas combien d'années sont passées. Combien de temps ils ont été mariés? On ne sait pas. Juste une chose, ils n'ont pas eu d'enfants. Donc Ruth est une jeune fille qui, maintenant, est célibataire. D'accord. Qui a été mariée, donc elle est veuve. Ok. Qui n'a pas pu avoir d'enfants, ce qui était une disgrâce au Moyen-Orient. Et donc, si je comprends bien, elle a eu un mari qui est décédé. Donc le peu de temps où elle a été mariée, puisqu'elle n'a pas eu le temps d'avoir des enfants, le peu de temps où elle était mariée, son mari est mort. Certainement, son mari est donc, puisqu'à l'époque, vous savez que si c'est une mort jeune, comme ça, c'était certainement une mort de maladie, puisqu'ils sont que les trois sont morts, le papa et les deux fils. Donc c'était probablement quelque chose qui ressemble à une peste ou quelque chose comme ça. Donc la pauvre Ruth a dû accompagner le peu de temps qu'elle a passé avec son mari, toute une partie c'était de soigner un mari malade. Vie sentimentale, très difficile. Et comme si ça ne suffisait pas, Ruth ne devait pas beaucoup avoir de famille et de proches. Parce qu'elle va s'accrocher à Noémie. Ça veut dire que dans son village à Moab, si beaucoup de personnes s'intéressaient à Ruth. Mais Ruth va s'accrocher à Noémie et elle va avoir une affection vraiment réelle pour sa belle-mère. C'est rare. Mais elle va être fanat de sa belle-mère. Et elle va s'accrocher à sa belle-mère. Elle a dû être émerveillée de la force de sa belle-mère. Mais un jour, sa belle-mère craque. Et la vérité, c'est que Ruth va se retrouver avec une femme qui est une femme amère, quasi dépressive. Et la vie de tous les jours dans la famille de Ruth, c'est quoi? C'est isolement, plus de mari, célibataire, et elle vit avec une femme qui est devenue dure. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Ruth au chapitre 1, verset 18. Je vous ai dit, devant une telle résolution, donc à la suivre, Noémie cessa d'insister. Et elles s'en allèrent toutes deux jusqu'à Bethléem. C'est-à-dire que souvent, la fameuse belle-mère disait à Ruth, dégage. Ça devait être drôle de vivre chaque jour. Hein. Vous avez perdu votre mari. Vous êtes toute seule. Il y a une seule personne pour qui vous comptez et qui compte pour vous. Et cette personne vous dit régulièrement, tu t'en vas. Ruth s'accroche à un tel point que Noémie, elle a un caractère impossible. Hein. Le malheur, je vous avais dit dimanche dernier, peut transformer votre caractère, mais c'est le cas pour Noémie. Parce qu'il est dit, leur arrivée là-bas, dans la localité, donc mis toute la localité en émoi. Regardez comment les gens du village les accueillent. Est-ce bien là Noémie? Demandèrent les femmes. Donc déjà, rien à faire de Ruth. Hein, parce que Ruth, elle compte pas pour les gens du village. C'est Noémie qui revient. Bon. Elle leur répondit, ne m'appelez plus Noémie, qui voulait dire l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée. Ou la mère, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Je suis parti d'ici comblé et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? C'est ainsi que Noémie et sa belle-mère et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Ben dis donc l'ambiance. Je ne sais pas si certains vivre ce que c'est que de rentrer à la maison et que la femme, en rentrant à la maison, elle râle. Au moment où, théoriquement, Le seul moment depuis longtemps où Noémie aurait dit « Chouette, il y a les copines !» Noémie dit « N'appelez plus l'heureuse, appelez-moi celle qui va mal l'affliger !» Bonne chance à Ruth pour la faire sourire, cette femme-là. Si au seul moment où elle peut être heureuse, elle fait la tête, qu'est-ce que ça doit être quand elle a des raisons de faire la tête? Moi, je me mets à la place de Ruth, ben, difficilement je suis pas à sa place, mais je me dis « Wow !» Le matin, l'ambiance au petit déjeuner. Le midi. Non, je ne veux pas manger, j'ai pas faim, tu peux dire, ça m'a coupé. Attends, mais mange un peu. Non, mais je suis amer, tu peux pas comprendre. Toi, t'as perdu ton mari, moi j'ai perdu mes deux fils, c'est pire, et mon mari. D'accord, oui, mais bon. Vous allez me dire peut-être la vie sociale, vu que la vie familiale, c'est la cata, peut-être que sa vie sociale va mieux. La vie sociale de Ruth, je vais finir de vous casser le moral. Parce que lorsqu'elle arrive en Israël, elle est moabite. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont immigrées ici et qui ont changé de pays. Vous avez vu comment ça se fait déjà. Des fois, les passages de frontières, on y va avec beaucoup d'espoir et on arrive avec beaucoup moins d'espoir. Bon. Et quand elle arrive en terre d'Israël, Israël, c'est un pays qui a été occupé 18 ans par Moab juste auparavant. Les Allemands sont restés 4 ans en France. Regardez ce qui s'est passé à la fin de la guerre. Au bout de 4 ans, toutes les femmes qui avaient eu un regard trop doux envers un Allemand étaient rasées, tondues, battues, collaboration, etc. En gros, Ruth, c'est une Allemande qui arrive en 45 et qui s'installe à Créteil. Ça devait être chaud. Alors vous voyez, dans un pays en ruine, en famine, pour une étrangère, une immigrée qui n'a pas les papiers, pour trouver un travail... Eh ben elle est chômeur. Hein. Ruth, quand elle arrive, elle est chômeuse. Elle peut rien faire. Il y a personne qui va lui dire « Excusez-nous, on va vous inscrire à Pôle emploi, madame. » Il n'y a pas de RSA. Il n'y a pas de prestation sociale. Elle n'a rien, cette femme. Et en fait, celle qui était censée être une personne qui l'a tirée vers l'avant, sa belle-mère la tire vers le bas. Alors vous allez me dire, oh non, mais elle a forcément des amis quelque part, Ruth. Ben oui, bien sûr, à Moab. Elle n'a qu'à utiliser Facebook. Ah mais mince, elle n'a pas de Facebook. Ben peut-être Internet quand même. Elle n'a pas d'email. Elle ne peut pas écrire d'email à sa famille. Toi, quand tu vas mal, tu peux quand même donner un petit coup de fil à Kinshasa. Un petit mail à Abidjan. Une petite photo de ta petite nièce qui est à La Réunion et qui t'envoie un petit cadre. Enfin, t'es loin, d'accord, mais... T'as quand même un petit peu de contact avec tes proches. Ruth, elle a rien. Elle peut pas aller au téléphone du village, il n'y a pas de téléphone dans le village. Donc, elle est complètement déconnectée, socialement, elle est exclue. Ok, et spirituellement, pour terminer le tableau, bah spirituellement, la seule phrase qui nous parle de Dieu à propos de Ruth, c'est elle dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». Donc, le Dieu de elle est prête à accepter le Dieu de Naomi, mais elle-même ne connaît pas ce Dieu-là. C'est-à-dire que la seule connaissance de Dieu, elle a une connaissance indirecte de Dieu. Elle a que ce que les autres ont raconté de Dieu. Elle n'a pas d'histoire personnelle de Dieu. Le seul miracle que Dieu a fait dans sa vie, c'est qu'il n'a pas fait de miracle. C'est que son mari est mort. Donc sa connaissance de Dieu, elle n'a pas connu Dieu comme le happy Dieu qui a tout donné. Elle connaît simplement la difficulté, les souffrances, les pleurs. Les seuls cantiques qu'elle connaît, c'est les cantiques de misère et de pleurs que Naomi a dû chanter le soir. Donc sa connaissance de Dieu, ça devait être quelque chose. Et pourtant, avec ce peu de choses, Ruth, qui vient d'une religion polythéiste, est prête à dire « L'Éternel sera mon Dieu ». Et elle dit quelque chose, elle dit « Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si je me sépare de toi. » Elle dit « Je sais qu'une seule chose, c'est qu'il y a deux personnes qui peuvent nous séparer, toi et moi, en parlant à Naomi. C'est soit moi je pars, et dans ce cas-là, que Dieu me punisse, sinon c'est la vie. Il n'y a que l'Éternel qui peut. » Et en fait, elle remet tout son sort à l'Éternel. Vous savez ce texte de la Bible qui dit « Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. » Et Ruth, elle n'a aucun... Dans son quotidien, sa vraie vie, elle n'a rien pour avoir de l'espoir. Vous avez déjà vu une chenille? Est-ce que c'est possible de mettre une chenille, Christian? C'est pas beau la chenille. Hein, encore celle-là, elle n'est pas trop mal. Mais une chenille, C'est gluant, ça pique, c'est mou, ça colle, ça se traîne. Dites-moi, combien croient qu'une chenille peut un jour devenir un papillon? Maintenant, vous le savez, vous allez dire, bah, je sais. N'empêche que si c'est vous, la chenille, c'est bien difficile de croire qu'un jour, la vie fera de nous un papillon. Et je voudrais dire que pour Ruth, j'admire cette femme qui, alors qu'elle est une chenille, dans sa vie sentimentale, c'est une chenille, dans sa vie sociale, c'est une chenille, dans sa vie spirituelle, c'est une chenille. Tout est dur. La seule chose que Dieu demande à Ruth, vous savez, c'est quoi? C'est « Tiens bon, choisis de vivre ». La seule chose qui peut empêcher une chenille de devenir un papillon, vous savez quoi? C'est une chenille qui arrive devant une flaque d'eau, qui se regarde et qui dit « Oh, je suis une affreuse chenille, je vais me suicider ». Et alors la chenille ne sera jamais papillon. Mais à part ça, personne ne peut empêcher, parce que le temps, je peux vous dire une chose, le temps va faire que la chenille va se transformer en papillon. Je voudrais te dire, mais c'est beau en plus, c'est l'histoire de vie, c'est dur, mais c'est ça la vie que Dieu a faite. Dieu est un Dieu des saisons, et Dieu dit, de toute façon, la saison que tu vois aujourd'hui, c'est pas ta saison permanente. Et Dieu dit, mais écoute, si tu tiens bon pendant l'époque où tu es une chenille, on va s'éclater, on va partir, on va voler ensemble quand tu seras un papillon. Mais vous voyez, si Ruth, au moment là, elle se désespère et s'enferme chez elle, elle rate tout. Alors regardons comment Ruth va réussir à saisir chaque grain de vie. Vous voyez le verset clé, pour moi le verset clé de ce chapitre, c'est le verset 22. Parce que le verset 22, il commence très mal et finit très bien. Il est dit, c'est ainsi que Noémie, vous avez compris que c'est le même mot, et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab, donc catastrophique. Mais lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, à la maison du pain, c'était le début de la moisson de l'orge. Et c'est le premier point positif dans cette histoire cauchemardesque. C'est, oui, mais en fait, il y a une saison qui va faire que dans la nature, des grains vont se former. Et il faudra peut-être que quelqu'un aille les ramasser. Alors sa vie sociale, qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce que Ruth va faire de cela? Elle va se dire, de toute manière, je suis chômeur, je suis immigré, je suis discriminé, personne veut de moi, je suis dans le mauvais pays. La maman à côté, là, elle est en dépression. Eh ben, franchement, je m'installe dans le petit canapé que j'ai, j'allume la télé et je déprime. Eh ben non, elle va choisir de vivre. Elle va choisir de se lever le matin pour une poignée de petites graines. Pour qu'une petite poignée de petites graines, elle va faire l'effort de se lever le matin. Peut-être si certains se plaignent de leur travail. Je sais que des fois, certains ont un travail difficile. Mais regardez ce qu'il est dit. Noémie avait un parent. Pardon, verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Elle demande l'autorisation à la belle-mère de dire, « S'il te plaît, permets-moi de tenter la vie. » Permets-moi de tenter d'aller ramasser des petites graines. Je ne vais pas avoir un job normal, je vais être juste derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, elle est au niveau des poubelles. Elle ramasse les poubelles, Ruth. Donc socialement, c'est le seul job en Israël qu'on pouvait laisser à quelqu'un qui était immigré comme ça. Donc elle est dit, Seigneur, je suis prêt à prendre le pire des jobs, mais je choisis de vivre. Et je choisis de me lever chaque matin et de partir au boulot. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi le travail? Vous avez compris l'histoire des moissonneurs? Les moissonneurs, c'était des personnes qui coupaient avec la faucille, ils coupent les gerbes de blé. Après, il y a les femmes qui ont leur salaire, qui sont régulièrement embauchées, qui, elles, font les nœuds autour des liasses, des fagots de blé. Et il y a quelques grains qui tombent. Et donc Ruth se dit, je vais m'installer avec les clochards, ceux qui n'ont rien. J'accepte cette situation, mais moi, je me lève le matin et je vais aller ramasser les grains que je peux ramasser. Waouh ! Il n'y a personne qui dit « waouh » parce que soit vous pensez que c'est trop difficile, mais attendez, le choix du courage. Regardez le verset 3. « Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. » Attendez, parlez-moi de votre travail là. Combien travaille lorsque c'est des ambiances, des sales ambiances ? Elle est jeune, Ruth, elle est certainement belle. Les hommes sont les mêmes de tout temps, toute génération. Les réflexions salaces, elles devaient en entendre toute la journée. Des machos, des sexistes, des pervers, des personnes qui faisaient du harcèlement moral, qui veulent peut-être faire du harcèlement sexuel sur elles. Elle entendait tout le temps. Je ne sais pas comment elle devait faire pour s'habiller, pour aller au boulot. Mais elle passait, elle attendait qu'ils aient fini, ils allaient loin. Et puis c'était les petites blagues des moissonneurs devant. Et Ruth, elle dit, ok, je laisse passer ça. Combien aurait tenu 2 jours, 3 jours, 4 jours? Elle allait au boulot. C'est ça, choisir de vivre. Racisme quotidien, certainement, pour elle. Se plaindre, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais dans le livre de Ruth, il n'y a pas une seule fois où cette femme qui a une situation catastrophique se plaint. Et même le seul moment où elle va parler, c'est incroyable. Regardez ce qu'il dit au chapitre 2. Au verset 7, il y a Boaz qui est le responsable du champ. Il parle au moissonneur et puis l'un des moissonneurs lui dit « Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis, elle est à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. » Boaz dit à Ruth « Écoute-moi bien, ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. » C'est que ça devait être le cas avant. Hein. « J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. » Et regardez, Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit « Mais pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère ?» Vous voyez, il n'y a que des misères dans sa vie. Mais il y a un tout petit grain positif qui vient de tomber et elle en fait une fête. Le seul truc positif, elle est juste tombée sur un homme normal. Bah, pour une fois qu'elle n'est pas tombée sur un pervers, elle dit « Waouh, c'est génial, il est bien !» Alors, peux-tu me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une personne correcte que Dieu ait placée auprès de toi? Mais seulement à force de dire « T'as perdu toute ta joie et le malheur a mangé ta joie. » Mais je loue Dieu qu'il y ait des exemples comme Ruth, une personne qui est capable de dire « La joie du Seigneur est ma force. » La joie du Seigneur est ma force. Vous savez, c'est un fruit de l'esprit. Là, il est dit dans Galates, parmi les fruits de l'esprit. Je pense que Dieu a... Il y a un cadeau de joie qu'il a placé dans Ruth. Pour celui qui choisit de vivre, Dieu dit, ok, moi je fais ma part aussi. Je mets de la joie. Et le Saint-Esprit, il veut juste souffler comme s'il y avait un petit feu. Il y a peut-être des petites braises de joie. Et puis le Saint-Esprit essaye de souffler à l'intérieur cata de la vie de Ruth et de souffler pour insuffler la joie en Ruth. Et Ruth, elle est incroyable. Elle arrive à faire la fête parce qu'elle est juste tombée sur un homme normal. Il dit, mais c'est incroyable, t'as pris soin de moi. Est-ce que c'est possible de voir une photo de Nick Vujicic? Le nom est un peu difficile à prononcer. Donc Nick Vujicic. Je suis désolé. C'est... Nick est né sans bras ni jambes. Et il écrit un livre et je vous propose de le lire. C'est vraiment, ça vous donnera une claque si vous vous plaignez. La vie au-delà de toute limite. Cet homme-là, il y a des extraits sur YouTube si vous voulez voir l'histoire en entier. C'est incroyable. Et il arrive à rire de ses faiblesses. Il n'a qu'un petit morceau de pied et il arrive à en jouer. C'est un extrêmement bon musicien avec ce seul organe qu'il a pour pouvoir jouer. Et Nick, il dit, à 8 ans, j'ai voulu me suicider. J'étais en train de hurler à Dieu. Dieu, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? Et Nick s'est battu toute sa vie. Et alors qu'il était jeune, il a décidé de partir faire des croisades dans les écoles pour dire aux jeunes qui se sentaient nuls, les personnes qui avaient des vies catastrophiques, de dire c'est possible, au-delà de toute limite. 2 millions de personnes. Il allait parler, prêcher devant 2 millions de personnes. Il dit, pendant longtemps, j'ai supplié Dieu de m'enlever mon handicap et toutes mes galères. Et aujourd'hui, je peux reconnaître que la main de l'Éternel était sur moi et que l'Éternel prenait soin. Et cet homme-là, il est plus joyeux que vous. Si, il est plus joyeux que vous. Vous l'écoutez sur YouTube, vous ne feriez pas un témoignage comme ça. Et c'est du vrai, quoi. Ce n'est pas juste une fois parce que c'est la caméra. Lisez son livre, il est plus joyeux que vous. Cet homme, il n'a aucune raison d'être heureux, sauf qu'il connaît Dieu et qu'il dit « La joie du Seigneur est ma force ». Et dans toutes ces pages, il dit comment il s'accroche à la vie et comment il choisit de vivre. Parce que ça, c'est un choix. Dieu est prêt à mettre la joie en vous, mais est-ce que vous choisissez de vivre? Je voudrais vous dire qu'est-ce qui se passe lorsque tu choisis de vivre. Tu donnes la vie aux gens autour de toi. Et ça, c'est une des merveilles que je lis dans ce livre parce que je vois Mara, la fameuse Noémie qui est devenue Acariate, je lui en veux même pas, elle a tellement eu de souffrance cette femme-là. Mais regardez ce qui se passe au verset 17 du chapitre 2. Ainsi Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Donc vous voyez, elle a bossé toute la journée, puis le soir elle en remet un coup. Il y avait 40 litres d'orge. Elle a bossé, hein. Elle emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi. Elle a même pas tout mangé à midi pour pouvoir en laisser à la mamie. Et après qu'elle se fut rassasiée, elle les lui donna. Sa belle-mère lui demanda, « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui ? Et dans quel champ as-tu travaillé ? Que l'Éternel te bénisse, celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Alors Ruth raconta à sa belle-mère, chez qui elle avait travaillé, et lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Noémie dit à sa belle-fille, « Oh, que l'Éternel te bénisse ! L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il a été bon envers ceux qui sont morts. » Excuse-moi, je peux avoir la vraie Noémie, s'il vous plaît ? Parce que juste avant, c'était un peu « L'Éternel m'a affligé, il ne m'appelait plus, Noémie, appelez-moi Mara, Dieu n'a rien fait !» et tout. Ce que je veux vous dire, c'est que le choix de vie de Ruth a redonné la vie à la mamie. La mamie a commencé à avoir des belles paroles envers Dieu. Celle qui devait donner l'exemple et qui ne donnait plus depuis longtemps, eh ben, elle était regonflée. Je peux te dire une chose, c'est que tes choix de vie, des fois, vont apporter la vie dans les autres. J'aimerais tellement que vous soyez cela. Je sais que certains, vous n'avez pas des occasions de sourire. Et vous savez la preuve que la mamie, elle a retrouvé la vie ? Dites-moi comment on retrouve qu'une grand-mère a retrouvé la vie. Eh bien, la grand-mère, elle a retrouvé la vie quand elle commence à faire des plans pour la vie sentimentale de ses petits-enfants. Et c'est ce qu'on va voir. Regardez, juste après, c'est le chapitre 3. Noémie dit à sa... Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille !» Ah, c'est plus... voilà, je suis amère, hein, on arrête de souper aujourd'hui. C'est « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Et ce soir, il va... » commence à faire des plans. Elle est en vie, elle a retrouvé la vie, la mamie. La mamie qui voulait plus vivre a retrouvé la vie. Parce qu'une femme s'est battue, parce qu'une femme a choisi de vivre, elle a, au lieu d'avoir que ça soit Mara qui a communiqué la mort à Ruth, c'est Ruth qui a communiqué la vie à Noémie. Et c'est une résurrection parce que, vous savez qu'elle a gardé des forces, la mamie Noémie. Parce qu'elle a une expérience de vie, elle va donner des bonnes informations à Ruth. Le mariage, c'est galère, hein. Et trouver, c'est quelque chose. Mais elle va bien la conseiller, parce que la première chose que Noémie va dire à Ruth, écoute, cherche quelqu'un dans la famille. Elle dit, on a un proche parent qui s'appelle Boaz. Et dans la famille, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne parle pas de la famille, là. C'est des familles à Moyen-Orient, hein. Ça peut être quelqu'un de super éloigné, mais on appelle ça la famille quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire quelqu'un qui partage tes valeurs, quelqu'un qui est proche de toi. Je parle de la famille chrétienne. Est-ce que tu es prêt à dire, voilà, je veux choisir quelqu'un de la famille ? Parce que pour Ruth, le plus logique, ça serait de retourner à Moab, parce qu'il y avait un jeune homme qui, quand elle avait 15 ans, hein, avait été charmant. Mais là, elle va faire fausse route. Tu vas dire, oui, ben, financièrement, ça va un petit peu mieux, donc je vais pouvoir... Et il y a beaucoup de chrétiens qui gâchent les cadeaux de Dieu, parce qu'ils ne sont pas logiques. Dieu est en train de te bénir dans ta vie sociale, ben, c'est bien, mais Dieu peut aussi pourvoir pour ta vie sentimentale. Il t'a donné un bon job, impeccable. Dieu peut aussi te donner un épanouissement, parce que Dieu veut ton épanouissement total, Ruth. Si une vieille femme aussi amère que Noémie est capable de vouloir du bien pour toi, à combien plus forte raison Dieu veut du bien pour toi ? Alors regardez ce qu'elle dit. Verset 3. Laissez-moi de la joie. Il n'y a pas beaucoup de moments joyeux et drôles dans la Bible. Laissez-moi la joie de vous partager un petit peu ces techniques de drague version Naomi. C'est génial parce que ça n'a pas changé, quoi. Non, ça n'a pas changé. Et je pense qu'il y a des chrétiennes ce matin qui vont devoir prendre des notes. Des chrétiens aussi, des frères, ils vont dire « c'est preach, pastor, preach », là, comme ils disent les Anglais. Elle dit rien. Ce soir, il doit vaner l'orge dans l'air. Verset 3. « Lave-toi donc, parfume-toi, et puis tu mets les plus beaux habits et tu rends dans l'air où il bat son orge. Ne te fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. » Elle calcule tout, la mamie. C'est de la fausse improvisation, tout ça. Et première chose qu'elle dit, c'est... Je vais être vrai aussi. Là, j'ai un petit quelque chose sur mon cœur. Considérez que je prêche plus, je suis en train de parler, d'accord ? Pardonnez-moi cet aparté, mais je crois que les chrétiennes, des fois, elles réservent leur plus beau look pour leur soirée avec leurs copains de travail, pour aller prendre un café avec quelqu'un, etc. Et quand elles viennent à l'église, parce que c'est la maison de Dieu, elles ne s'habillent pas sexy, c'est sûr. Hein. C'est la maison de Dieu, tenue correcte, exigée, d'accord. Mais vous voyez, à un moment, il faut savoir qui vous voulez séduire. Hein. Et franchement, s'il y a des beaux habits à sortir, c'est quand on va voir quelqu'un de la famille chrétienne. Alors, moi, je suis fatigué de cette hypocrisie de dire « t'es allumeuse ». Écoute, parce qu'il y a un truc, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que vous êtes prêts quand c'est des inconvertis, parce que personne ne va vous faire la réflexion à prendre des tenues que vous n'oseriez certainement pas à l'église. Alors, ce que vous prenez là-bas, si c'est pas bien, vous ne le mettez pas là-bas. D'accord. Dans ce cas-là, vous ne le mettrez pas ici. Mais ce que vous êtes capable de mettre là-bas parce que votre conscience trouve que c'est correct, vous avez le droit de l'amener ici. Parce que ça ne sert à rien de faire de la discrimination négative. Je ne comprends pas, les chrétiens ne me regardent jamais. Arrête ton look de bonne copine alors. Mais c'est bizarre parce qu'on se trouve super spirituel. Non, on ne drague pas, machin. Mais moi j'étais enseigné, on m'a dit, c'est pas bien de chercher. Non mais on m'a dit quelqu'un, alors là, quand je voulais aller à l'école biblique, j'ai eu, ouais, les mauvaises raisons pour aller à l'école biblique, c'est de chercher. Chercher, on va pas là-bas pour se marier, etc. Mais on va où alors? Non mais attendez, où est-ce qu'on rencontre des chrétiens? Si on va pas dans les camps, les colos, à l'église, où est-ce qu'on va rencontrer les chrétiennes? Dans le métro? Faites comment pour les reconnaître, vous? On n'est pas logique. On se tire des balles dans le pied et après on dit, ah oh, ben, yes, Seigneur, il y a... Alors, je sais que ça suffit pas. Ça suffit pas. Mais il y a quand même des choses là à retenir. Elle, Noémie, la belle-mère, elle a pas de complexe. Elle dit, tu me mets top, ma fille. Tu vas chercher dans la garde-robe tout ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que Ruth faisait chaque jour? Parce que, aussi, mettez-vous dans la tête de Ruth, elle devait se faire harceler par les moissonneurs. Donc, elle devait se mettre juste des sacs à patates, quoi, quand elle sortait, pour ne pas avoir de réflexion trop, trop pénible. Donc, s'il y a un endroit où tu dois mal t'habiller, c'est au boulot. À la rigueur, ça, je comprends. Mais inverse l'affaire. Mais là, quand elle est dans la maison de Dieu, elle s'habille bien, elle se met belle, elle se met jolie, etc. C'est important. Bon, je termine cette histoire parce que après il va falloir que je revienne. Il y a un dernier conseil. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la différence homme-femme. Les frères, là, je ne peux pas vous parler parce que si vous appliquez ce verset, vous allez dans le mur. Par contre, les sœurs, si vous appliquez ce verset, vous souffrirez moins. C'est le verset 18. Verset 18. La Bible, elle est géniale, il y a tout dedans. Hein. Je ne pensais pas qu'il y avait des cours de séduction. Mais c'est du bon sens, ça fait partie de votre vie, non ? Alors, vaut mieux qu'on le fasse selon la Bible plutôt qu'on le fasse selon le monde. Noémie lui dit, maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est habillée super sexy, super bien, correcte, etc. Il ne s'est rien passé la nuit. Elle a pris ses distances. Elle a juste été très belle. Elle a dit très peu de paroles, mais Boaz, là, il a bugué sur elle. Il a flash total. OK. Bon. Qu'est-ce que dit, ou pas d'ailleurs? Parce qu'à ce moment-là, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc, soit Boaz a accroché, soit Boaz n'a pas accroché. Et regardez ce que dit Noémie. Elle dit, maintenant ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. En gros, soit c'est foutu, soit c'est bon. Mais s'il est intéressé, ça ne va pas traîner. Et ça, c'est une différence profonde entre les hommes et les femmes. Parce que lorsque un gars... Écoutez ça un petit peu, ça peut vous aider, ça va vous éviter de souffrir longtemps. Si le gars n'accroche pas au début, arrêtez de prier, vous allez pleurer. Arrêtez de prier, vous allez pleurer. Ça ne marche pas. Les gars, ils sont beaucoup plus primaires que vous. Vous intellectualisez plein de choses. Et les sentiments chez vous, ça met du temps. Et moi, c'était mon erreur de croire que les femmes réagissaient comme les hommes. Mais du coup, quand j'ai fait ma déclaration à Nathalie, je lui ai laissé 2 jours pour réfléchir. C'était insuffisant largement. Donc au bout de ça, j'ai eu un non. Et pourtant, elle avait des sentiments, parce que j'ai raisonné comme un homme. Elle doit régler l'affaire aujourd'hui, sinon il n'y a rien. Mais ça, c'est les hommes. Les femmes ont besoin de temps. Mais vous, les femmes, ne donnez pas du temps à du temps qui ne mérite pas d'être donné. Et je suis désolé de vous le dire, mais vous avez la chance de pouvoir faire votre deuil plus tôt que nous. Si, au bout de quelques temps, il n'a pas donné de signe, il n'a pas rappelé, alors vous avez... En gros, c'est, vous y allez, vous connaissez cache-cache, vous faites touche, et après tu pars. Parce que sinon, au bout d'un moment, touche. Pourquoi tu ne m'aimes pas, touche. Pourquoi tu ne m'aimes pas. Vous allez vous humilier, vous allez pleurer à Dieu. Moi, j'ai fait ça aussi des fois, j'ai dit, Seigneur, donne des sentiments. Dieu n'est pas un manipulateur de sentiments. Dieu n'est pas un manipulateur de sentiments. Soit il est amoureux, soit il l'est pas. Et Naomi, dans son bon sens de vieille femme du Moyen-Orient, dit, soit il est accro et ça se joue aujourd'hui, soit tu pleures et c'est fini, on passe. Et puis Dieu donnera un autre moment. Et puis il y aura d'autres grains d'orge. Ça veut dire que c'était pas le bon grain d'orge que Dieu avait prévu pour toi, c'est tout. Et c'est incroyable parce que Dieu prend soin de Ruth. Et effectivement, elle avait complètement raison, la mamie. Boaz, il a vraiment flashé, il a assumé, c'est un homme, il a tout de suite négocié, il allait voir les tontons, etc. Il a négocié une histoire de sandales, après je vais plus gagner du temps là. Et à la fin, ça se règle vite hein, quand même. Hein. Ça se règle vite. Hein. Verset 13 du chapitre 4, c'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Et c'est Boaz, quand il veut quelque chose, et elle a raison, si c'est vraiment de Dieu et que la personne a des sentiments, ça se fait. Après, ça ne sert à rien de traîner en longueur. Regardez la photo de Nick Vujicic. Attendez, ça c'est sa femme. Il s'est marié. Alors c'est dommage, on n'a pas la photo. On n'a pas réussi à agrandir la photo du mariage. Tu peux mettre la petite même. Je ne sais pas si on ne va pas voir grand-chose. Mais c'est juste magnifique. Leur mariage. Oh, je vous assure, il y a des flambeurs du monde, des dragueurs invétérés, des beaux mecs, des Brad Pitt. Ils n'ont pas une femme aussi jolie aussi. Mais je lui dis, mais c'est classe, Seigneur, ce que tu fais. Et cette femme, elle est redingue de son mari parce que son mari, à l'intérieur, il a une des qualités, mais incroyable. Ils font le tour du monde. Ah, regardez un petit peu. Ils font le tour du monde tous les deux. Mais attendez, moi, ça redonne la foi à quelqu'un qui est désespéré, normalement. Moi, je lui dis, Seigneur. Mais vous voyez, Ruth, elle n'aurait jamais rencontré Boaz si elle était restée déprimée devant sa télé. Si le jeudi soir, elle est dit, non, je suis trop fatiguée, je veux... Elle se bossait, elle allait, elle se battait. Et un choix de vie. Je termine ce matin parce que le temps passe. Je voudrais vous parler en conclusion, de la vie spirituelle de Ruth. Parce que il va naître un petit bébé extraordinaire. Lorsqu'il se fut uni à elle, c'est le verset 13, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et elle donna un fils. Donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem, de la maison du pain, dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé de soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il rendra ta maison, pardon, il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours puisque c'est ta belle-fille qui t'aime et qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que cette fille. On ne parle pas du bébé là. On parle de la belle-fille. C'est-à-dire que les femmes disent, franchement, la plus grande chance que tu as eue dans ta vie, c'est Ruth. Elle vaut pour toi 7 fils. Je ne sais pas comment devait être Naomi par rapport à sa belle-fille, mais elle dit, waouh, merci Dieu pour cette femme qui a choisi la vie, qui m'a redonné la vie. Alors regardez, Naomi, elle va prendre le bébé. Elle va élever. Noémi prit le nouveau-né, le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. La mamie, elle dit, écoute, tu pourvois pour rien, moi je paye tout. Hein. Là, celui-là, je l'ai attendu. Là. Les voisines s'écrièrent, Noémie a un fils. Et lui donnèrent le nom d'Obed. Obed, ça veut dire serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire que, vous savez, les voisines, elles appelaient, pas en fonction des ragots, elles savent quelle est la relation de Ruth avec Dieu. Et si elles appellent son fils Obed, ça veut dire que c'est un serviteur de l'Éternel, parce que sa maman est une servante de l'Éternel, parce que le couple, c'est un couple qui sert l'Éternel, c'est un couple qui a mis Dieu en premier, et du coup le bébé, il s'appelle serviteur de l'Éternel. Ils lui donnèrent le nom d'Obed, et Obed fut le père d'Isaïe, Alléluia. Le grand-père de David. Amen. Et l'arrière-arrière, ça je rajoute, grand-père de Jésus. Et vous voyez comment Dieu a permis d'utiliser une femme célibataire, veuve, sans enfant, immigrée, pauvre, chômeuse, etc. et a fait d'elle la grande maman de Jésus. Alors vous allez me prendre tous les miettes que vous avez dans votre vie et vous allez dire, Seigneur, pour chaque miette qui tombe, pour chaque petite graine de vie, pour chaque personne que tu as mis à mes côtés, que ce soit, ne serait-ce que quelqu'un normal comme Bose, je suis prêt à me réjouir. Je choisis de dire, Satan, tu ne me voleras pas ma joie. Tu m'as déjà mis suffisamment de misère dans ma vie. Il y a quelque chose que tu ne peux pas me voler, c'est le fruit de l'esprit, c'est la joie. Et ça, ça vient de Dieu. On va fermer nos yeux ensemble. Je crois que c'est vrai ce texte qui dit « Je changerai leur deuil en allégresse. Je changerai leur deuil en allégresse. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. » Alléluia. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, vous mangez le pain de la douleur, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cherche les graines d'orge. Sois prête à ramasser ce que Dieu va permettre, parce que tu ne sais pas quelle est la saison où la chenille se transforme en papillon. Seigneur Jésus, viens redonner de la force, du courage à celui qui a battu. S'il y a un homme, s'il y a une femme qui désespère, Seigneur, je te prie de lui faire voir les quelques grains d'orge que tu as à côté, préparés pour elle.
Force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre.
On se levait ensemble.
Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna.
Bienvenue au Jésus dans la venue,
au Jésus. Chant s'élève, les yeux se tournent vers.
L'espoir renaît.
Soupir après toi, oui, après toi, en te voyant, te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes, elles s'enfuient. Hosanna, le Sauveur, à toi la force et l'honneur. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le Sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Sont des cœurs qui reviennent à toi.
Alléluia.
Reviennent à toi,
Seigneur.
Dans ton royaume.
Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre.
Alléluia.
Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, oh, Hosanna. Parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, le Sauveur, à toi la gloire et l'honneur.